Merci pour cette journée. Merci pour cette heure. Bénis le quart d'heure qui va suivre. Qu'il serve à ta gloire, mais à notre bien. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer notre Dieu? Je dis un grand merci à mon frère et mon confrère dans le ministère, le pasteur Hugues Tshisungu, pour l'invitation et la confiance renouvelée. Merci aussi à tous les braves frères et sœurs qui, tout autour de lui, partagent la charge du ministère. Je voudrais vous inviter à lire avec moi deux portions des Écritures, 2 Samuel, chapitre 15, versets 13 à 16, ainsi que le verset 30. Et la seconde lecture, nous la faisons dans 2 Samuel, chapitre 23. Et cette fois-là, la lecture partira du premier verset au verset 51. Pour votre gouverne, j'ai abordé le même thème, les leçons de David, le berger devenu roi. Mais il y avait quatre leçons, j'ai abordé les deux premières leçons au premier culte. Je verrai juste un peu de manière ramassée, si vous permettez le terme, en parler. Mais je vous encouragerai à acheter le support pour avoir les deux autres leçons. De la même manière, j'ai dit à celles et à ceux qui étaient simplement au premier culte aussi, s'ils veulent avoir les deux autres leçons, soit de venir assister, c'est peut-être votre cas, ou de chercher le support. Alors, 2 Samuel, chapitre 15, versets 13 à 16. Quelqu'un va informer David et lui dit, « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre. Il nous précipiterait dans les malheurs et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » Les serviteurs du roi lui dirent, « Tes serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. » Le roi sortit et toute sa maison les suivit et laissa 10 concubines pour garder la maison. Le verset 30, plein de tristesse. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte. Et il marchait nu-pied. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête. Et il montait en pleurant. 2 Samuel chapitre 23, du premier verset au verset 25e. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob. Du chantre agréable d'Israël. Soulignez bien ça. Du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et quand la matinée est sans nuages, ses rayons après la pluie font sortir des terres la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison en Dieu? Puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. N'a-t-il pas germé tout mon salut, tous mes désirs? Leçon de David, le berger devenu roi. Qu'il est étonnant de voir ce que Dieu peut faire d'une matière première par un produit fini au-delà de notre entendement, au-delà de notre imagination. Au nom de voir les surprises que la vie, et certains pourront dire la providence, nous réserve. Le nom de David n'apparaît pas avant 1 Samuel 16, 12 à 13. C'est subitement en ce moment-là que son nom apparaît ainsi que son personnage. Il apparaît dans un moment carrefour dans la vie du peuple de Dieu. Le peuple est retourné dans la terre promise. Et puis ils ont cherché un roi et Saül a commencé bien. Petit à petit, il a commencé à sortir du plan de Dieu. Et Dieu décide de faire deux choses, vraiment, de rejeter les rois Saül et de se choisir quelqu'un d'autre. Et là, j'ouvre une parenthèse que je ferme rapidement pour dire, personne n'est indispensable dans la vie tout court et dans l'œuvre de Dieu. Dieu peut mettre de côté celui qu'il utilise, celui en qui il a placé beaucoup de choses. Et puis voilà, mission est accordée à Samuel dans la maison d'un inconnu de Bethléem appelé Isaïe pour chercher un roi. Et Samuel annonce la nouvelle sûrement à la famille. Et puis voilà qui se pointe. Et puis chacun des enfants est appelé à passer devant les prophètes pour qu'on reconnaisse le roi choisi. Et de l'instant où Eliab, le frère aîné, apparaît, la Bible dit que le roi dit, certainement c'est lui. Il a vu sa taille, sa carrure. Mais Dieu lui dit, ce n'est pas lui. Shammah s'avance. Les prophètes ont tendance à se laisser aller. Et puis finalement, tous les enfants, ou presque, sont passés. Et l'homme de Dieu commence à croire, j'ai l'impression que ma mission est un échec. Dieu m'a dit que le roi est dans cette maison. Et j'ai l'impression que tous les enfants sont passés. Et ils se tournent vers les papas. Sont cela tous tes enfants? La réponse du père montre, je ne sais pas si le terme mépris ou dédain peut être appliqué, mais la moindre importance accordée à David, il y a un tout petit. Je ne pense pas qu'il soit vraiment cheval partant dans cette course. Et le prophète dit, je ne partirai pas d'ici jusqu'à ce qu'elle revienne. Il était de coutume que David aille entre 6h30 et 7h, garder les troupeaux, il ne revenait jamais avant 6h du soir. Et ce jour-là, de manière impromptue, on vient les chercher. Les commentateurs disent que c'est aux alentours des 11h. Mais qu'est-ce qu'il y a donc? Je n'ai pas encore fini ma journée. Reviens. Qu'il est étonnant de voir que l'on peut dormir berger. On peut se réveiller le lendemain matin roi. Et le voilà, il se pointe à la maison. Et la Bible dit, dès l'instant où il a paru, l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, où en est, car c'est lui. J'aime souvent dire, l'homme de Dieu peut se tromper. Mais lui, il ne se trompe jamais sur la tête où elle doit être déposée. Lui, il est têtu. Lui, il connaît la tête où elle doit être déposée. Et la Bible dit, Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. Et la Bible ajoute, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours-là. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Cette scène nous apprend trois vérités que je voudrais mentionner à ce niveau avant de continuer. La première vérité, c'est que Dieu est le seul capable de voir ce qu'il y a en nous, que ni nous-mêmes, ni les autres ne peuvent voir. Dieu voyait les rois qui sommeillaient dans le petit berger, dans le petit garçon négligé. Dieu voyait les produits finis qui pouvaient sortir de cette matière première. Je prie que, alors que les gens ne voient rien en toi, les gens ne peuvent pas comprendre, que Dieu t'aide à savoir ce qu'il a placé en toi. Mais la deuxième vérité que cette scène nous apprend, et là, ça s'attache et à Dieu, mais à toute personne qui a un leadership, c'est que Dieu n'a pas peur d'assumer ses choix. Il aurait pu faire les choix en catimini. Il aurait pu dire, David, viens, si je le fais devant tes frères, ils seront lésés. Il avait dit, éloigné au milieu de ses frères, au milieu de tous ceux qui avaient aussi ambition de devenir roi. Devant Eliab, devant Shammah, devant tous ceux qui se disaient, moi aussi j'ai droit au chapitre. Non, j'aimerais le faire en catimini, sinon ils seront blessés. Ça fait 2 ans que j'enseigne. Les leaders chez nous au pays, dans une structure appelée le fer aiguise le fer. Je leur ai dit, un leader doit apprendre à faire des choix, à lever des options et à les assumer. Quand vous êtes leader, vous leverez des options qui seront l'objet des critiques. Et la critique est toujours facile. Si tu ne veux pas être critiqué, ne fais rien. Mais même en ne faisant rien, on va te critiquer parce que tu ne fais rien. Mais tout ce que tu vas faire sera analysé, critiqué. Comme on dit souvent chez nous, les meilleurs joueurs, ce ne sont pas toujours sur le terrain. Ce sont ceux qui sont sur les gradins. Mais fais-les rentrer sur le terrain. Il ne sait pas qu'avant que tu n'arrives là, tu as couru 600 mètres, tu es essoufflé, mais lui voit tout clairement. Et Christ est un modèle des leaders qui savaient assumer ses choix. Il a une présélection des 70 personnes. Il sait que parmi les 70, il doit choisir 12. Il va changer leur statut. Il va leur donner plus de responsabilités. Et d'après ce que les commentateurs disent, il a dû les appeler comme une séance de proclamation, comme nous qu'on était à l'Athénée de Kalina. Et puis il a commencé à appeler. Avant, tout il dit, sur les 70, 12 vont changer de statut. 12 deviendront apôtres. Et tous les restes, vous deviendrez des frères, vous resterez des frères quiconque. Dites Amen. Ils ont dit Amen. Chacun disant, c'est moi, ça sera moi. Et puis il a commencé à appeler. Pierre, il est où? Matthieu. Philippe, il est où? Et puis le nombre a commencé à baisser. Tous calculés. Ils sont déjà combien là-bas? 8. Donc il reste 4. Les cœurs battaient à la chamade. Tic, 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 tic. Puis les 12. J'imagine parmi ceux qui ont été choisis, certains sont allés se faire les high five. Oh! Il dit à l'homme, mon cher, quand il en restait 2, mon cœur ne battait plus là, c'était là. Et dès l'instant, mon nom a été cité. Quel apaisement. Vous savez, c'est toujours merveilleux de faire partie des 12 qui ont été choisis. Mais je voudrais dire, sur les chemins de la vie, viendra un jour, nous ferons partie des 58 qui n'ont pas été choisis. Que faire quand on voulait faire partie des 12 et qu'on n'a pas été choisi? Vous savez, quand on reste parmi les 58, il y a deux choses qui se passent. On critique et celui qui a fait le choix, et deux, il est choisi. Il a choisi sur base de quels critères? S'il était vraiment spirituel, est-ce que Thomas, il allait être là? Et puis on commence à critiquer les choisis. Bon, Pierre, il a des atouts. Mais Thomas, toi et moi, Thomas. Thomas, il me dépasse en quoi? Mais le leader a assumé les choix. Et Jésus était fort. Il a appelé pour aller guérir la fille de Jaïrus, le chef de la synagogue. Délégation des 13, il y a lui, puis les 12 disciples. Ils arrivent sur base de je ne sais quelle conviction. Ils sentent qu'ils ne doivent rentrer qu'à 4, mais ils sont à 13. La Bible dit, Pierre, Jean et Jacques dit, vous entrez. Et les 9 qui restent à entrer, mon frère, ils sont des apôtres majeurs. Nous, on est des apôtres mineurs, ou des vice-apôtres ou quoi? Mais vous savez, il aurait pu éviter émotionnel en disant, bon, pour que certains ne soient pas blessés, sinon ils vont dire, oh, faisons entrer tout le monde. Il fait le choix selon qu'il estime c'est nécessaire. Et un bon leader, il assume. Troisième vérité que ce texte nous apprend, c'est que derrière chaque appel de Dieu, il y a un équipement. Dieu n'appelle jamais sans équiper. Tournons de la vie de David. Un jeune homme, un petit berger. Mais la Bible dit, Samuel prit la corne d'huile, l'oignon au milieu de ses frères. Écoutez ce qui se passa. L'Esprit de Dieu saisit David dès cet instant et dans la suite. L'équipement pour être. L'équipement pour faire. Combien de fois nous disons, est-ce que je serai capable? J'ai jamais oublié comment j'ai tremblé. Tout jeune pasteur assistant, toutes ces années, j'étais derrière le pasteur Vernon, un problème. Je disais, on verra auprès du pasteur Vernon. On va aller reporter. Et puis, je devais commencer l'église. Désormais, il n'y a plus quelqu'un vers qui reporter. Si on va reporter, ça sera vers moi. Et puis, je me disais, ce monsieur, il prêchait dimanche après dimanche. Vous savez, les meilleurs prédicateurs sont ceux qui prêchent de temps en temps par à-coup. Saurais-je tenir dimanche après dimanche? Quand Dieu appelle, il équipe. L'Esprit les saisit et dans la suite. Et dès cet instant, David entre dans une formation qui a duré 13 ans. 13 ans durant lesquels Dieu fait ce que les anglophones appellent des inputs et des outputs. Il met des choses en lui et il enlève. Psaume 89 au verset 20 dira, j'ai prêté mon secours à un héros. J'aime surtout ce qui est dit après, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Il est en hébreu veut dire éduqué. Puis après cette éducation, durant 40 ans, l'ex-berger devenu roi transforme un petit royaume quelconque en une force économique, force politique, force géostratégique pour montrer combien Dieu peut partir de peu et faire beaucoup. Mais si ce premier message lui avait été donné par Samuel, psaume 89, verset 25 à 28, nous montre un deuxième lot de messages qui avait été donné à David. Dieu a envoyé un prophète qui lui a dit, va dire à David, ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera, non pas par ses efforts, mais par mon nom. C'est mon nom derrière lui qui fera tous les exploits possibles. Et Dieu montre comment il va l'étendre. Dis-lui, je mettrai sa main sur la mer. et sa droite sur le fleuve. Je veux l'étendre. Remarquez, du pas, il. Il aura sa main. Non, on dit, je mettrai. Ce serai moi qui serai l'acteur. Et il ajoute, lui, il m'invoquera en disant, tu es mon père, mon Dieu, les rochers de mon salut. Là, on parle de l'alliance. Les mots, père en hébreu veut dire source. J'aimerais dire, tout celui qui se reconnaît comme, et plutôt reconnaît Dieu comme source, c'est celui qui peut bénéficier des choses qui viennent après. Il dira, tu es ma source, tu es l'endroit où je retire tout ce que je peux avoir. Et la conséquence, parce que toi, tu le reconnais comme source, qu'est-ce que Dieu promet? Il dit, et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Et David s'est mis à travailler durant 40 ans. Il transformait un royaume fort, plutôt, en un royaume très fort. Et s'il était ici ce matin, il nous apprendrait plusieurs leçons. La première leçon, je l'ai mentionnée au premier culte. David nous apprendrait que le Dieu qui promet, c'est aussi le Dieu qui accomplit. Deuxième chose que je mentionne au premier culte, si David était ici ce matin, il allait nous apprendre qu'il y a des choses que ni les hommes, ni l'adversité n'arrive à faire des négatifs en nous, mais que l'accomplissement peut faire, nous détruire et nous dévier. Et nous avons montré comment le même David qui a résisté à Saül, qui a résisté à l'adversité, est devenu le destructeur de son propre royaume et de sa propre bénédiction. Le temps nous manquerait, suivez cela, si vous avez la possibilité d'avoir le support. 2 Samuel chapitre 11, il va avec la femme d'autrui et Dieu est fâché contre lui. Nous avons montré combien Noé sorti de l'arche après avoir expérimenté la plus grande bénédiction commet la plus grosse bêtise après. Nous avons montré combien la bénédiction quelquefois amène les relâchements. Le même Noé qui a expérimenté la protection de Dieu au sortir de l'arche, la Bible dit, il s'enivra et se dénuda. Nous avons aussi montré combien Lot, après avoir échappé à Sodome et Gomorre, et lui et ses filles sont allés ensemble. Des choses qu'il aurait pu faire à Sodome et Gomorre et qu'il n'a pas pu faire, résistant à la tentation, à la corruption. Mais quand Dieu les sauve, laissez aller. Nous avons montré aussi Israël, sorti d'Égypte, traversant la mer Rouge par la main forte et puissante de Dieu, ayant vu les eaux de Mara se transformer, ayant vu Dieu leur accorder la victoire sur les Amalécites. Et quand Moïse monte sur la montagne, quelque chose d'étrange se passe. Exode 32, verset 5, je voudrais qu'on me mette ça. Quelque chose se passe de triste. La Bible parle de ce que le peuple fit quand Moïse est éloigné. Le peuple s'éleva pour manger et boire. Et la Bible dit, il s'est mis à se divertir. Et les termes divertir ou diversion, tel que la Bible mentionne, ça veut simplement dire faire des orgies. Plus personne n'avait des barrières. On ne savait plus qui était la femme de qui. Chacun prenait la femme qui était disponible. Verset 6. Le lendemain, ils s'élevèrent de bon matin. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils s'élevèrent pour se divertir. Et quand Dieu regarde et dit, toute ma force a été déployée pour qu'ils en arrivent là. Plus de barrières morales, plus de limites. Et Dieu dit, j'ai déployé ma force pour qu'ils en arrivent là. Et j'ai donné l'exemple au premier culte. J'ai dit en sport, principalement en football, tous les entraîneurs, tous les formateurs vous disent, le plus grand moment de fragilité dans une équipe, c'est quand il vient de marquer. Et il est prouvé, plusieurs équipes encaissent rapidement les buts après avoir marqué. Pourquoi ils sont dans l'euphorie? Ils viennent, mais c'est pourquoi l'entraîneur doit toujours être aux aguets. Vous venez de marquer, les gens se réjouissent sur lui. Hé! Hey! Numéro 2, reste-toi! Hey! Lui, il ne tombe pas dans les pièges de ses régions. Pourquoi? Il doit garder tout le monde concentré. Seigneur, donne-moi quelqu'un qui, quand tu vas me bénir, m'aide à garder les caps. Troisième leçon que David pourrait nous apprendre s'il était ici ce matin, c'est qu'il y a des choses que nous ne devons jamais cesser d'être, quel que soit ce que Dieu fait pour nous. Il y a des choses que nous ne devons jamais cesser d'être, quel que soit tout ce que Dieu fait pour nous et il accomplit en notre faveur. J'aimerais le dire autrement, il y a un profil que nous ne devons jamais perdre. Pourquoi? La plupart des fois, c'est un profil, permettez-moi les termes, qui nous qualifie à la bénédiction de Dieu. Il y a une façon d'être et de faire qui plaît à Dieu. Dieu voit ta façon de te comporter, ta façon d'être, ça lui plaît, mais le comble, c'est que quand vient la bénédiction de Dieu, nous prenons ce profil, nous le jetons de côté. Et pourtant, c'est ce profil qui a fait que Dieu, cette humilité que tu avais, cette simplicité que tu avais, cette passion pour Dieu, cette fidélité vis-à-vis de ton épouse. Dans le monde du travail, lorsqu'on parle des profils, on parle de l'ensemble des caractéristiques d'une personne qui la rend apte pour une activité, occuper un poste ou avoir droit à un emploi. Combien très facilement, consciemment ou inconsciemment, nous perdons les traits de caractère qui avaient plu à Dieu, qui avaient touché son cœur et qui avaient attiré son regard. Et Samuel 13, 14, alors qu'il rejette Saül, Dieu et les anges sont à la recherche d'un remplaçant. Dieu dit, mon plan pour ce peuple ne va pas tomber. Je vais trouver quelqu'un. Et écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple. La version française courante dit, l'Éternel a trouvé un homme qui correspond à son désir. La version parole de vie dit, un homme qui lui plaît. Dieu jette un regard et dit, aux anges, calmez-vous. Notre plan ne va pas échouer. J'ai trouvé un petit garçon. Il est encore tout jeune, il est adolescent. Mais il a la matière première pour ce que... Regardez-le quand il chante. Regardez combien son cœur est attaché à moi. 1 Samuel 16, au verset 1, lorsque Dieu envoie Samuel dans la maison d'Isaïe, il lui dit, remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils. Seigneur, qu'est-ce que tu as vu en moi? Qu'est-ce que tu as vu dans ces petits garçons de l'Ozone? Qu'est-ce que tu as vu? Français courant dit, j'ai choisi parmi les fils les rois qu'il me faut. La version parole de vie dit, les rois qui me plaît. Placez mon acte 13, 22. Ce passage, il est fort. C'est Paul qui est Antioche de Pisidie, relate un peu l'histoire d'Israël. Et écoutez ce qu'il dit. Puis, l'ayant rejeté, c'est de Saül qu'il veut parler. Il est ressuscité David pour roi, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe. Un homme selon mon cœur, mais deux qui accomplira toutes mes volontés. La version française courante dit, j'ai trouvé un homme qui correspond à mon désir. Il accomplira tout ce que je veux. Je viens de faire partir un têtu qui faisait ce que lui voulait. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui est prêt à se plier à ma volonté. Parole de vie dit, c'est un homme qui me plaît et fera tout ce que moi et moi seul vais lui dire. 1 Samuel 16, verset 18, ainsi que verset 23, nous montre au-delà de son cœur attaché à Dieu, mais la chose qui distinguait David. Et verset 18 dit, il sait jouer de la harpe, et l'Éternel est avec lui. Et verset 23 dit, quand David prenait la harpe et jouait de sa main, Saül respirait alors plus à l'aise et s'est trouvé soulagé. Les archéologues ont fait des recherches et ils ont trouvé un morceau de pierre sur lequel il était écrit « Quand David jouait, les concerts des anges au ciel s'arrêtaient parce que Dieu voulait recevoir cette musique. » Et tout au long de son parcours, dès sa jeunesse, David avait un nom. On l'appelait les chantres agréables d'Israël. celui qui psalmodiait pour Dieu. Et lui-même, au soir de sa vie, il donne un peu son curriculum vitae. Placez-moi en 2 Samuel 23, verset 1er. Il se présente sous plusieurs facettes, mais malgré qu'il est devenu grand, il garde la facette principale. 2 Samuel 23, le verset 1er. Voici les dernières paroles de David. Et premièrement, on les présente sous sa filiation. Parole de David, fils d'Isaïe. Mais deuxièmement, on les présente tel que Dieu a travaillé pour lui. Parole de l'homme haut placé. Notre version dit parole de l'homme que Dieu a pris d'en bas et il a amené vers le haut. Et puis troisièmement, parole de loin de Jacob. En hébreu, on dit parole de ces ressortissants de Jacob que Dieu a rendu capable. Parce que l'onction cache la capacité. Mais quatrième description, à 70 ans, il est le soir de sa vie, il est toujours roi mondé, parole du chantre agréable d'Israël. Parole de celui qui merveilleusement chantait pour Dieu. La version Free Martin dit, parole de celui qui composait les doux cantiques d'Israël. Une autre version dit, parole de celui dont Dieu aimait entendre les chants. Parole de celui dont Dieu et les hommes aimaient les cantiques. J'aimerais dire à quelqu'un en ce début d'après-midi, même quand tu deviendras roi, ne cesse jamais d'être chantre. Combien de fois la royauté chasse les côtés chantres qui a plu à Dieu. J'aimerais que tu saches, c'est ton cœur qui chante qui t'a qualifié à la royauté. Ce sont ces cantiques qui plaisaient à Dieu. Dieu a dit, voilà le genre d'homme que je veux. Non seulement qu'il chantait pour Dieu, mais Dieu l'avait équipé pour cela. Lui-même, il dira au verset 2, il dit non seulement qu'il était le chantre, il dit, l'Esprit de l'Éternel parle par moi. L'original dit, il parle par mes chants. Et sa parole est sur ma langue. Et les psaumes de David ont traversé les âges pour faire du bien. Dans psaume 71, au verset 8, non seulement que David désire quelque chose, mais il en fait un sujet de prière. Il dit que ma langue, ou plutôt que ma bouche, soit remplie de tes louanges. Que chaque jour, elle te glorifie. Que des prières que nous faisons à un moment, jusqu'à ce que Dieu nous bénisse. Il dit que ma bouche soit remplie de tes louanges. Ce sont ces louanges qui m'ont qualifié. Il dit que chaque jour, je te glorifie. Parce que j'ai toujours été un chantre et je veux le rester. Psaume 45, verset 2. La Bible rapporte que ce sont les paroles du fils de Corée. Mais la tradition juive dit que le fils de Corée a entendu David faire cette prière. Et qu'est-ce que les fils de Corée disent dans psaume 45 au verset 2? C'était l'expression du cœur de David. Les paroles pleines de charme bouillant dans mon cœur. J'ai dit mon œuvre est pour les rois, mais surtout la fin. Que ma langue soit comme la plume d'un habit écrivain. David disait, je voudrais faire de la peinture pour Dieu au travers de ma bouche. Je voudrais le faire toute ma vie. Mais une étude de la vie de David avec chiffres et statistiques à l'appui montre non seulement comment David au fil des temps a changé, mais combien c'est lui qui Dieu était le centre d'intérêt de sa vie, petit à petit commencer à changer. Qu'est-ce que la bénédiction va faire de toi et de moi? Qu'est-ce que l'élévation va faire de toi et de moi? La vie de David peut être scindée en 5 parties. La première partie va de 0 à 17 ans. Et ce dit en passant, David a composé 73 psaumes. Et de 0 à 17 ans, David a composé 20 psaumes. C'est-à-dire 27% de tous les psaumes. Dans le fameux psaume 23, l'Éternel est mon berger. je ne manquerai de rien. Et les commentateurs disent que c'était son sport favori. Quand il amenait les troupeaux qui étaient soit en train de brûler ou de s'abreuver, il prenait sa harpe et chantait pour son Dieu. Les larmes perlaient, les larmes coulaient de ses yeux. Il exprimait ce que son cœur désirait. C'était le chantre agréable d'Israël. On a retrouvé des traces. On dit quand David jouait, il y avait un public qui s'est invité. Quand il terminait, il s'étonnait que les gens, ils acclamaient chantre agréable d'Israël. Et puis il y a eu une deuxième période dans sa vie, entre 17 et 30 ans, quand il est devenu un fugitif, un fuyant par-ci, par-là. De 0 à 17 ans, on dit qu'il avait toujours sa harpe partout. Même quand il avait houlette et bâton, sa harpe ne les quittait jamais. Mais de 17 à 30 ans, David a composé 25 psaumes. C'est-à-dire 34% de ces psaumes. Et les commentateurs disent, alors qu'il était devenu un fugitif, un chef des bandes, il avait plus besoin d'une épée pour se battre. Mais il ne lâchait jamais sa harpe. Parce qu'il savait que la force de l'épée venait de la harpe. Il savait que pour que son épée soit tranchante, il devait chercher sa force en Dieu. Et puis vient la troisième période, des 30 à 65 ans. C'est la période de la royauté. La période de l'accomplissement. La période où le petit fugitif d'autrefois n'est plus fugitif. C'est lui qui mangeait à la belle étoile, qui buvait l'eau des rosées, et d'ailleurs est devenu un roi qui domine. Et vous savez, la meilleure, en 35 ans, David n'a composé que 4 psaumes. Il les a composés les 2 premières années, c'est-à-dire 0,54%. Sa harpe désormais chômée. Si sa harpe pouvait parler, dit, autrefois on était proche. Il pouvait se retourner lui dire avec la formule consacrée chez nous, indépendamment de ma bonne volonté. J'aurais vraiment voulu te toucher, mais tu vois, j'ai des rendez-vous, des contrats à signer. Je dois discuter pour les problèmes du pays. Seigneur, aide-moi à ne jamais cesser d'être. C'est lui que j'étais qui t'a plu. Mais vous savez, quand Dieu tient un profil, il sait comment vous faire retourner. Quand Dieu est nostalgique, il sait mettre les batteries en marche pour que tu chantes de nouveau. Le chômage va bien te faire chanter. Problèmes vont te faire redevenir celui que tu étais. Difficultés, tu retrouves un endroit au mauvais moment, quelqu'un place une boule de drogue, tu nies, moi je ne suis pas, et puis on attrape ça. Toi qui ne t'es réveillé plus à 5 heures en prison, tu deviens conducteur de la dévotion matinale. Et Dieu regarde et dit, petit, c'est ce que je voulais, mais sans les fouets. Tu vois où tu m'as amené? Et vient la quatrième période de la vie de David. C'est la révolte d'Absalom. Certains peut-être ne le savent pas, la révolte d'Absalom n'a duré que 4 jours. Celui qui durant 35 ans n'a composé que 4 psaumes, 0,54. Mais durant les 4 jours de la révolte d'Absalom, il a composé 14 psaumes. Quelqu'un a dit, si la révolte d'Absalom avait duré une année, on aurait eu non pas 150 psaumes, on aurait eu 1000. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu deviens un roi et que tu ne continues pas à chanter pour Dieu, Absalom te fera chanter. Nous l'avons lu en 2 Samuel 15, Absalom s'élève. Le royaume échappe aux mains de David. Et la Bible dit, David s'en allait nu-pied. Et nu. On commence à lui jeter la poussière. J'aimerais dire à quelqu'un, n'amène pas Dieu à être nostalgique. Dieu dit, j'aimais quand tu évangélisais. J'aimais quand tu t'es réveillé le matin. mon statut a changé. C'était quand j'étais piéton. Seigneur, c'est quand on était en Afrique. Dieu dira, ok, je te ferai chanter. Et puis vient la cinquième période, après la révolte d'Absalom jusqu'à sa mort. 5 ans, mais grand étonnement au palais royal. On a entendu le roi chanter 2 premières années. Et puis, 33 ans de silence. Mon retour, les 5 dernières années, malgré ses occupations, on entendait le roi chanter. La harpe était de nouveau utilisée. Quand il est retourné après la révolte d'Absalom, David a composé 10 psaumes, 13%. Dont le plus célèbre, c'est le psaume 37 où il dit, j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant le pain. Ou le psaume 71, verset 9 et verset 18, il dit, ne me rejette pas au temps de la vieillesse quand mes forces s'en vont. Ne m'abandonne pas. Et il en faisait un chant. Il avait cils et sourcils blancs. Il dit, ne me rejette pas au temps de ma vieillesse. Et Dieu dit, petit, ce sont les genres de choses que j'aime. Au verset 18, il dit, ne m'abandonne pas au Dieu, même dans la blanche vieillesse. Ne m'abandonne pas, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente et ta puissance à la génération future. Et il dit au verset 5, car tu es mon espérance dès ma jeunesse. Psaume 71, verset 5. Tu es mon espérance depuis quand? Dès ma jeunesse. Et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Verset 17. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Qu'as-tu? Et que tu as cessé d'être parce que les conditions ont changé. Je parlais un jour avec un homme de Dieu, ougandais. Il vivait dans un petit village de l'Ouganda appelé Mbarara, à l'époque d'Idi Amin. Et il a annoncé la parole partout. Il a gagné des âmes. Il s'est levé chaque matin pour prier de 4h à 7h. Et puis il allait évangéliser. Et puis Idi Amin a commencé à chercher à les tuer. On l'a fait sortir par Nairobi, puis il est arrivé aux États-Unis. Et il s'est simplement rendu compte qu'il ne priait plus. Il s'est surpris un jour en train de faire comme vous faites ici le plus souvent, discuter sur le taux d'alcool dans telle boisson. Il dit, j'en prends juste un peu. Juste un peu qui t'égaye jusqu'au point chronique devient corinthien. Il y a un jour, alors qu'il était dans une boîte de nuit, Dieu lui a dit, où est celui qui m'invoquait? Où est celui qui me disait, toute ma vie c'est pour. Es-tu toujours la même personne? Je prêchais un jour à Nairobi. En plein milieu de la prédication, quelqu'un est rentré, je ne le connaissais pas. Et puis vers la fin du message, quand on s'est arrêté, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer quelqu'un dont la famille est persécutée. Il a vu son père et sa mère être abattus. Il s'est caché sous les lits. Il ne priait pas à l'époque. Ce jour-là, il dit, Seigneur, si tu me sors d'ici, je te servirai toute ma vie. Et bizarre, alors que ces gens cherchaient à l'achever, quelqu'un les a appelés, ils sont sortis. Et plus tard, il a traversé pour Brazzaville. Et plus tard, il est arrivé aux États-Unis. Il a commencé à servir Dieu avec zèle la première année. Et puis, comme ça arrive souvent, non pas qu'il s'est refroidi, mais il est devenu païen, plus païen que les païens. Et Dieu me dit, il est ici. qu'il retourne vers le Dieu à qui il a fait des promesses. Sinon, ce Dieu va arrêter les choses. J'oublierai jamais, il a roulé comme un ballon. Il est venu devant. Qui étais-tu autrefois? Qu'as-tu cessé d'être? Après avoir compris tout cela, David dit, même si je deviens un roi, je resterai chantre. Parce que c'est la chanson qui m'a qualifié. La dernière leçon, et je termine en ce jour. Si David était ici, David nous apprendrait que Dieu est un Dieu de but. Dieu est un Dieu de but. Et il est exigeant. Dieu est un Dieu de but. Parler de but, parler de la raison d'être d'une chose, c'est parler de l'intention animant. Une action ou motivant. Une façon d'être ou de faire. Parler de but, c'est parler de la finalité que l'on se propose. Proverbe 16, verset 4 dit, Dieu a tout fait pour un but. Nous l'avons lu, acte 13, verset 22. Puis ayant rejeté Saül, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, et écoutez la suite, homme selon mon cœur, et qui accomplira toutes mes volontés. J'ai mis de côté quelqu'un parce qu'il n'accomplissait pas mes volontés. Et je place quelqu'un parce que j'ai des buts à atteindre avec lui. Qu'il accomplisse mes volontés. Et quand David accède à la royauté, il connaît les buts de Dieu. Et il veut les accomplir. De Samuel 8 au verset 15, montre ses débuts et dans ses débuts-là, les buts de Dieu. David régna sur Israël et faisait droit et justice à tout son peuple. Français courant dit, il rendait justice avec impartialité. La version Nouvelle Bible et Seconde dit, il agissait envers tout son peuple selon l'équité et la justice. La version Parole de Vie dit, il gouvernait avec justice en respectant les lois. Et Dieu devait sûrement se réjouir. Il dit, voilà le pourquoi je l'ai amené là. Mais deux passages nous montrent un changement. Le premier, quasiment 15 ans après que David ait accédé à la royauté. Nous l'avons lu. De Samuel 11, 14 à 17. Il écrit une lettre. Le lendemain, David écrivit une lettre à Joab et l'envoyant par la main d'Uri. Pauvre Uri, il croit servir le roi. Il amène la lettre par loyauté, par obéissance, s'il pouvait connaître les contenus. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort de combat, retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Tuez-le. Pourquoi c'est un témoin gênant? S'il reste en vie, ma bêtise avec Bathsheba sera connue. Je t'ai élevé pour que tu commences à éliminer des vies. Il pense pas au projet de ces hommes, de cet homme, au rêve que cet homme a prêt à l'éliminer pourvu que son péché soit couvert. Joab en assiégeant la ville plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. Écoutez le théâtre. Vas-y, verset 18, 19 et 20. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'est passé dans les combats. Il donna cet ordre au messager. Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira, pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille? Verset 21. Qui a tué Abimelech, fils de Jérubesh? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule, de moulin? N'est-il pas mort à Tébet? Pourquoi êtes-vous approché de la muraille? Alors tu diras, ton serviteur Uri le Héthien est aussi mort. Verset 22. Le messager partit. À son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Les messagers de David, ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs. Ils Nous avons repoussé jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs. Et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Et ton serviteur Uriel, Étien, est aussi mort. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire. Car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la et toi, encourage-la. La femme d'Uriah apprit que son mari était mort et elle pleura. C'est pour ça que je dis un faux deuil, un deuil théâtral. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Mais écoutez la fin, ce que David avait fait de plus. Qu'est-ce que Dieu pense de ce que tu fais? Les gens n'émettent pas une opinion, ils sont silencieux, mais Dieu émet une opinion. Je ne suis pas d'accord. Je t'avais placé pour la justice et tu deviens injuste. Mais le comble de tout maintenant, c'est 2 Samuel 15, au verset 13. Oh, certes, Absalom profite de cela. Mais Absalom profite d'une situation qui montre que plus rien ne va. Remontons même au verset 1er. 15. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Verset 2. Il s'éleva des monts montagnes au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu ?» Lorsqu'il avait répondu, « Je suis d'une telle tribu d'Israël. » Écoutez le verset 3. Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez les rois ne t'écoutera. » Les commentateurs disent, « David est devenu un homme d'affaires. Il n'a plus le temps pour la justice. Occupé, occupé à gagner de l'argent. » Dieu dit, « Je t'ai placé là pour un but. » Et tu as commencé à poursuivre ce but dès le départ. Que fais-tu avec ce que Dieu t'a donné? Dieu ne fait rien pour rien. Il te donne ses moyens au-delà de la moyenne pour un but. Il te donne cette force pour un but. Il te donne ses ouvertures pour un but. Il te donne ses atouts pour un but. Est-ce que tu gardes ce que Dieu t'a donné pour ce but? Combien de fois nous gaspillons ce que Dieu nous a donné? Et puisque Dieu tient à ses buts, il est prêt à tout. Je me suis converti à 31 ans. Et il y a 30 ans, je commençais à aller à notre église, le centre évangélique francophone là-bas. Comme un tout petit garçon aimant Dieu. J'allais souvent à l'église là-bas en à pied. J'ai quitté chez nous à Lausanne. Il y a des jours où je me mettais à l'arrêt des bus et j'exerçais la foi sans marcher. Quelqu'un me prenait gratuitement ou quelqu'un payait pour moi. Il y a des jours où la foi ne marchait pas. J'allais diriger la réunion de la jeunesse à pied. J'ai rentré à pied en ayant le petit livret des chants bleus qu'on appelait ensemble. J'ai tellement marché à pied que je connais du premier cantique au 159e. Le premier, c'est sur l'ancien et les bons chemins. Et les 150, j'oublie jamais, le ciel s'abat, la gloire est dans mon cœur. J'allais diriger les réunions de la jeunesse presque nu. Et ma passion pour Dieu était tellement forte. J'oublie jamais, ce jour-là, je devais diriger la réunion de la jeunesse et le seul pantalon que j'avais, en essayant de les repasser, ça s'est ouvert derrière. Chez nous, à Lingan, on dit ma do follow. Je ne sais pas, en français, on dira deux gros trous. Et notre responsable de la jeunesse, le pasteur Veillé, obligé toujours celui qui va faire la modération, doit enfiler son pantalon. Et juste quand je voulais monter, j'ai mis ma chemise dehors. Il dit, pourquoi tu n'enfiles pas? J'ai dit, j'ai pas un problème, c'est tellement grand que ça, j'appelle ça problo. J'ai dit, regarde, j'ai jamais oublié. Hey, donc, yo, sorcier. Il me dit, hey, quoi? À l'époque, on avait des réunions de la jeunesse de la borne dans la salle, mais quand il y avait 10 mariages, on le faisait à l'école maternelle. L'avantage dans la salle, c'est qu'il n'y avait pas de gens derrière. À l'école maternelle, c'était circulaire. J'oublie jamais une fois, j'ai dirigé la réunion à cet endroit circulaire et le micro est tombé. Si c'était dans la salle, je pouvais les ramasser comme ça. Parce qu'il y avait des gens derrière et devant, je suis descendu comme un ascenseur. J'ai repris le micro et je suis remonté. Aujourd'hui, 30 ans après, Dieu a transformé ces petits garçons nus. Ces petits garçons qui n'étaient rien, quelqu'un qui compte dans la ville. Le 31 décembre est passé à 1h30 du matin. Le service de comptage est venu me dire, pasteur, on en est à 12 500 de personnes qui viennent au réveillon. Et le lendemain, le premier, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, c'est ce petit garçon nu autrefois qui te servait. Aide-moi que l'habit que tu as placé sur mon corps ne vole pas ses ailes que j'avais autrefois. Et je l'ai fait cette prière ce matin-là. J'ai dit, Seigneur, si tu décides que je revienne encore nu, je te servirai encore. Je ne m'attache pas à toi parce que tu m'as habillé. Je ne m'attache pas à toi parce que tu m'as donné. J'ai dit, Seigneur, je te servais sans télé, sans caméra. Aujourd'hui, dans la ville et même dans le pays, je ne suis pas un inconnu. Seigneur, que cette popularité ne vole pas les cœurs que j'avais pour toi. Et je lui ai fait cette prière le premier au soir. J'ai dit, Seigneur, si tu estimes que tout ce que tu fais avec et au travers de moi va me voler ces cœurs que tu as toujours voulu, s'il te plaît, prends-moi avant. Je voudrais nous inviter à baisser nos